t'avais dit de pas emmener le pote à la piscine, il est pas étanche. La Cité du Local, on l'écoutera tout à l'heure en podcast.
Un tapis rouge, de belles voitures, des paillettes et du cinéma. Ça vous rappelle probablement le Festival de Cannes. Alors avez-vous déjà vu quelque chose de semblable en Mayenne ? Eh bien, c'est que vous n'êtes pas encore allé au Festival des 37 et aujourd'hui, on va vous le présenter avec Loïc Méjean, directeur du festival. Mais ce n'est pas tout, une artiste est à notre micro aujourd'hui, il s'agit d'Odile Menant, qui se produit au Coco Latte à Château-Gontier avec son One Woman Show. Elle était si mignonne quand elle était petite. Et bien sûr, à la fin de cette émission, c'est la chronique de la Ligue des Droits de l'Homme avec Frédéric Benoît. Bienvenue, chers auditeurs, et bonjour Lucie.
Bonjour.
Une petite actualité locale peut-être, Lucie, avant de commencer cette émission ?
Oui, avec plaisir, je vais faire très court aujourd'hui. Vendredi dernier, le 24 novembre, Fabrice Amédéo, originaire de la Mayenne, a franchi la ligne d'arrivée de la transatlantique Jacques Vabre en duo avec Andreas Baden. Autre chose, pour les amoureux de nos compagnons à moustache, l'association Chaocats à Château-Gontier-sur-Mayenne propose Huma à l'adoption. Il précise qu'elle peut vivre en maison ou en appartement avec des chats et des chiens. Pour ceux que ça pourrait intéresser, l'association Chaocats se situe au 21 boulevard des Capucins et vous pouvez les contacter au 02 43 70 41 05. Et pour finir, à Évron, un spectacle son et lumière sera projeté sur la façade de la basilique. Ça s'appellera Abbatia Storia, la légende de l'épine. Les illuminations seront lancées vendredi 1er décembre à 18h30 et les projections dureront jusqu'au 31 décembre de 18h à 21h tous les soirs.
Bonjour Odile Menant, vous êtes une ancienne professeure de théâtre. En fait, vous êtes plein de choses.
Alors déjà, le terme ancienne ne me plaît qu'à moitié. Parce que ancienne, ça a un côté archéologie. J'ai connu Indiana Jones dans sa jeunesse. Non, j'ai dans les multiples vies qui ont été la mienne, il y en a une qui était prof de théâtre, oui, mais elle n'est pas si ancienne que ça, la pauvre.
Et donc, vous avez commencé à entrer dans le milieu du théâtre en étant au Conservatoire d'art dramatique de Paris.
Oui, 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 oui. J'ai eu la chance, bon, d'abord, j'habitais Paris. J'étais dans une famille relativement de théâtreux, on va dire. Donc, j'ai pris la voie royale. C'était plus simple. Donc, j'étais l'élève d'un professeur extraordinaire que j'aime toujours d'amour. Tant d'années après, c'était Antoine Vitesse, qui dit plus grand-chose à grand monde maintenant parce que il est mort il y a longtemps. Et puis, ça prouve que je suis pas toute jeune. Mais qui m'a appris beaucoup de choses sur le regard, la façon dont on s'approche d'un personnage et dont on lui rend hommage. Parce qu'en fait, le théâtre, c'est quoi ? C'est rendre hommage à des gens. J'essaie toujours de jouer des personnages que j'aime un peu. J'ai pas encore eu l'occasion de jouer des vraies méchantes, des vraies affreuses, la fée dans Blanche-Neige, là, avec sa verrue sur le bout de son nez, ça j'ai pas encore fait. Mais donc j'ai toujours eu la possibilité d'aimer les personnages que je jouais, de leur donner le maximum.
Donc vous avez commencé plus sur du théâtre classique et un jour vous avez eu envie de plutôt vous tourner vers le café-théâtre parce que le sexisme du milieu, vous ne le supportiez plus.
Alors si vous voulez, pour les gens qui ont la chance d'avoir la radio avec la télé, ils vont voir qu'effectivement j'ai des formes plutôt 1950 que 2023. Donc chaque fois que je me présentais, effectivement, et j'en ai fait beaucoup, des castings, beaucoup, 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 j'étais blonde, avec des grands yeux bleu-vert, des seins qui arrivent en général une demi-heure avant le reste. Donc, systématiquement, les gens me castaient pour la fille qui va être à poil à un moment donné, quoi. Donc j'en ai eu marre parce que bon, j'avais étudié avec Vitesse. Vitesse avait eu la grande intelligence de voir au-delà de mon physique, on va dire pulpeux, que j'avais une vraie puissance dramatique et une vraie douleur. Donc il m'a fait travailler Phèdre, qui à aucun moment ne se promène à poil dans Phèdre. Et donc j'étais dans cette espèce de dichotomie énorme entre ce que j'avais envie d'être, ce que je savais pouvoir être et ce qu'on voulait que je sois. Et un jour, il y a eu le casting de trop, j'ai dit « Merde ».
avant d'en venir à Château-Gontier. Vous avez créé votre café-théâtre Le Rideau Rouge à Rouen. Ce n'était pas votre premier café-théâtre.
Alors, j'ai découvert le café-théâtre vraiment à un moment donné où, effectivement, on venait de me proposer au Centre Dramatique National de Reims de reprendre une pièce de Michel de Gelderode, qui est un auteur très, très classique, très, 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 très noueux, très ombrageux, avec un texte magnifique. Et donc, moi, j'étais le bourreau, qui allait exécuter ce pauvre condamné qui n'avait rien fait. Et moi, j'étais content parce que le texte était magnifique. C'était un texte shakespearien. Je faisais des envolées comme ça. J'étais au mieux de ce que j'aime faire. Et un soir, très, très, très peu de temps avant la représentation, le metteur en scène vient avec un petit regard salace que je ne suis pas prêt d'oublier. Et il me dit, oh, y a un truc qui serait quand même plus fort, c'est que tu sois à poil. Donc là, je le regarde avec tous mes yeux en disant, mais pourquoi ? Et là, j'en ai eu marre. Je me suis dit, bon, j'ai de l'humour, j'ai de la dérision, j'ai accumulé tellement d'épisodes comme ça, parce que c'en est pas un, c'est 20, 30, 40, je sais pas. On était vraiment dans les années 60, fin 70, début 80, donc c'était vraiment les balbutiements du café-théâtre. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas raconter mes affres de comédienne voilà. Et ça a marché tout de suite. Mais tout de suite. C'est-à-dire que mes douleurs existentielles, la façon dont je me moquais de moi-même et aussi des gens qui étaient autour de moi, ça a plu. Donc là, je suis tombée dans la marmite du café-théâtre et j'ai plus envie d'en sortir du tout.
Et donc, vous en avez créé un donc à Rouen, le Rideau Rouge.
Oui.
Mais là, vous gériez tout toute seule.
Alors là, ça a été un peu... Je suis un peu une goinfre de vie, de mots, d'amour aussi, goinfre de tout. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire de faire un café-théâtre, autant le faire carrément. C'est-à-dire, j'avais repéré en plein centre-ville de Rouen un très, très, très grand lieu abandonné depuis très, très longtemps dans un état de ruine absolue. Parce que j'ai souvent l'imagination débordante et peut-être pas forcément salutaire pour moi. Donc, je me suis dit, ça ferait un café-théâtre magnifique. Et ça fait un café-théâtre magnifique pendant 5 ans où on a fait des très belles créations. On a vraiment occupé la scène rouennaise dans les petites formes du café-théâtre. Et j'ai été parfaitement heureuse et totalement épuisée. Et j'ai été jusqu'à l'épuisement. Là-dessus, je suis arrivée à Château-Gontier. Et une amie, que je ne remercierai jamais assez, m'a dit, mais va voir le Coco Latté. Je crois que c'est un lieu pour toi. Et je suis rentrée dans le Coco Latté. J'ai dit oui. C'est le lieu pour moi.
Et donc, vous avez déjà joué le 17 novembre. Votre One Woman Show, elle était si mignonne quand elle était petite.
Oui.
Alors, de quoi parle...
C'est ce que ma maman, elle me disait pendant tous les jours de ma grande vie, dès que j'étais un peu grande, et qu'elle voulait me présenter aux gens. Elle disait, je vous présente ma fille. Oh, elle était si mignonne quand elle était petite. Donc, vous avez vu la tête qu'elle a maintenant. Donc, ça m'aidait à vivre. Merci, maman. Et j'ai trouvé que c'était une bonne accroche pour partir sur...
Le regard qu'on pose peut-être sur... quoi.
C'est pas tellement le regard qu'on pose, c'est sur quelle chaise on va poser son cul. En tant que femme, on a pas mal de chaises possibles. Elles sont pas toutes confortables, il y en a certaines même qui sont très casse-gueule. Mais voilà, on se pose où ? Et la chaise café-théâtrale me va parfaitement. J'ai l'impression quand même qu'à travers des sketchs drôle où les gens rient, et vraiment le 17 novembre, on a eu la chance d'avoir un public en or absolu. J'ai quand même l'impression que j'arrive à faire passer quelques messages essentiels sur la place des hommes, la place des femmes, la place des hommes et des femmes ensemble, tout ce genre de choses.
Le rire est important, peut-être pour parler justement des sujets forts comme cela.
Je pense que le rire, c'est un sucre quand on avale une médecine trop amère.
Donc, on peut vous retrouver au Coco Latté les premiers vendredis de chaque mois.
Voilà, ce qui est important en fait à dire et à préciser, haut et fort, c'est qu'on avait un contrat moral avec la directrice du cocolaté, Coralie. Je lui ai dit, on essaye une fois, si ça marche, si les gens... parce qu'au départ, quand je suis arrivée en Mayenne, donc il y a quelques dizaines d'années, 10-12 ans, on m'a dit, oh, qu'est-ce que tu viens faire ici, les Mayennais ne rient pas. Oh, qu'est-ce que je fais là, moi? Toute une région qui fait la tronche. Oh, ça va être très long. Et en fait, c'est un public en or massif. Ils sont frais, ils démarrent, pouf, pouf, pouf. Donc, très vite, après la soirée du 17, qui a été vraiment magique, avec un public en or massif, on a décidé qu'on faisait ça une fois par mois. Et donc, tous les premiers vendredis du mois, à 20h, et puis voilà, puis une fois par mois. Donc là, ce spectacle-là, on le joue le 1er décembre, on va le jouer le tout début janvier. Et après, ce sera le spectacle suivant qui s'appelle Ma vraie vie de Miss, où je parle... Je me suis peut-être rapprochée un peu plus de moi dans le spectacle suivant, où là, j'arrête de faire semblant d'être une autre, je vais vous parler de moi.
Elle était si mignonne quand elle était petite, donc il reste deux représentations.
Deux représentations, le 1er décembre et le premier vendredi de janvier.
Premier vendredi de janvier, ce sera le 5 janvier.
Et ben voilà, le 5 janvier.
Et donc après, on continue dans cette lancée-là, puisque ça plaît aux gens.
Tout à fait, moi j'aime ça. Je me sens un petit peu moins, je ne vais pas dire inutile, parce que je ne me sens pas inutile quand même, mais là je me dis, bon, ça tu sais faire, et ça fait du bien aux gens.
Bon, en tout cas, merci Odile Menant. Je rappelle, la prochaine date, donc c'est le 1er décembre. Il est conseillé de réserver, d'ailleurs.
Ah oui, oui, tout à fait.
Donc, la réservation, vous pouvez la faire au 02 43 09 42 92.
Peut-être. Et je me permets d'ajouter, réserver vite, parce qu'on était archi plein le 17, et il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas pu avoir de place, qui donc ont réservé pour le 1er. Donc, on commence à se remplir, on va dire, gentiment. Donc, ne perdez pas de temps.
Voilà, il ne reste plus que deux dates. Merci Odile Menant d'avoir été avec nous.
Merci
aujourd'hui.
Merci Margot.
Allez, avant de partir à la rencontre de Loïc Méjean et du Festival des 37, je vous propose d'écouter ensemble La Salle aux Lumières de Colt.
Je pense que tout va bien, que rien ne peut aller mieux. Mes premiers amours sont loin, je suis devenue plus ambitieuse. J'ai pris mon courage à deux mains. Et j'ai fait tourner les pages, mis le doigt sur un visage et fait le premier pas. Les doutes le lendemain feront couler quelques larmes. Si l'on me dévisage, retour à la case départ. Le hasard, c'est moi qui l'ai choisi. Et tu seras toujours ce dont j'ai envie. Quelques plumes sur le trajet vers moi-même. J'ai fondu mes armures et trouvé mon repère dans la salle aux lumières de la villa en pin. T'as posé sur mes lèvres le plus beau des parfums. Tes yeux dans un éclair ont prolongé l'instant. T'as souri la première, puis t'as pris ton élan. Pourtant le hasard, c'est moi qui l'ai choisi. Ce jour t'a changé ma vie. plus ambitieux.
Connaissez-vous le Festival des 37 en Mayenne? C'est comme un festival de Cannes, mais à Renazé, donc bien mieux. L'ouverture de ce festival aura lieu le 2 décembre et on a suivi toute la partie invisible de ce que représente ce festival, les coulisses en quelque sorte, et on a eu envie de vous le partager. Dans cette première partie aujourd'hui, on rencontre Loïc Méjean, directeur du festival, et Jean-François Castel, documentariste et parrain de cette 4e édition.
Loïc Méjean, je suis responsable du Festival des 37 et responsable aussi de l'association qui sévit sur le territoire depuis 11 ans, qui s'appelle L'Autre Vie du Papillon. En fait. Alors le Festival des 37, c'est un festival de cinéma populaire. Il est né en 2013, la date est très symbolique puisque c'est le 16 mai 2013. On s'est réunis avec une trentaine de personnes au sein des ateliers d'échange du Pays de Cran. C'est un EDI, un espace de découverte et d'initiative. On m'avait demandé d'intervenir pour une création d'une pièce de théâtre. Suite à cette pièce de théâtre, des personnes m'ont demandé de faire du cinéma. Donc, on s'est réunis le 16 mai 2013, et c'était l'ouverture du Festival de Cannes cette année-là. Et des gens ont dit, oh, c'est l'ouverture du Festival de Cannes. Et pourquoi nous, on n'aurait pas notre festival? Et pourquoi nous, on n'aurait pas droit au tapis rouge? Et pourquoi on ne serait pas aussi dans des belles voitures, etc. Tout le monde a dit ça. Enfin, beaucoup de personnes se sont exprimées là-dessus et moi j'ai trouvé que c'était une super idée. Je leur ai dit, c'est une super idée, on va faire un festival comme à Cannes, mais à Renazé. Donc tout le monde a rigolé, personne n'y a cru vraiment parce que c'était assez utopique. Et finalement, une première édition a vu le jour en 2014, puis une deuxième en 2018, puis c'est devenu un projet territorial. Donc on en est à la 4e édition aujourd'hui en 2023 et une 5e édition est prévue pour 2025.
Donc 2 années de travail, c'est énormément de préparation.
Alors oui, l'idée c'est d'être sur 2 années de travail parce que ça nous permet de d'abord faire écho de l'existence de ces ateliers de pratique artistique, théâtrale et cinématographique. Ça veut dire on invite les gens à prendre leur temps de venir, de rester un peu, de repartir, de trouver leur place. De nous aussi trouver une place pour qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent reconnus, respectés, qu'ils se sentent en lien. Il faut dire que le public que nous fréquentons, qui vient participer à ces ateliers de tous les horizons et de tous les âges, c'est intergénérationnel, donc on touche des écoles jusqu'à des personnes qui sont à la retraite, qui ont 4 dollars, ça va de 3 ans à 90 ans, hein, si on parle un peu dans le détail. Et donc c'est une ouverture à la culture cinématographique, à l'écriture, au jeu d'acteurs. Donc c'est vraiment faire du faire ensemble qui nous permet, nous, de parler du vivre ensemble, voilà, sur le territoire.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances, ma vedette c'est tout.
Finalement, le Festival des 37, c'est faire du lien à travers ce grand écran.
On est vraiment sur des moteurs de travail sur le lien social, sur la cohésion sociale, sur agir contre l'isolement, permettre aux gens de venir se rencontrer, d'échanger et d'apprendre aussi. La connaissance des uns, la connaissance des autres. Là, on parle de l'humain, mais aussi la connaissance du cinéma, parce qu'on a ouvert des ateliers de projection et d'éducation à l'image, on va dire aussi, pour parler un peu dans les termes culturels. Voilà, ça c'est 2 années de travail parce qu'on a plusieurs propositions d'ateliers aussi décors. On fait donc des décors pour le festival, on étudie aussi des objets, on fabrique des objets, on essaie aussi de faire participer des gens qui ont envie de se rendre utile. Ça, c'est une des missions principales du festival. Voilà.
Et alors, le Festival des 37, cette année, c'est le voyage.
Alors, le voyage, c'est encore une fois une thématique choisie par les participants. une volonté de donner la parole souvent à ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire, on va puiser, chercher l'imaginaire, on va questionner. Moi, je suis un animateur de ces rencontres avec les personnes pour qu'on puisse justement susciter leur envie, leur désir, pour qu'ils restent, pour qu'ils continuent et qu'ils se trouvent finalement dans une utilité qu'ils n'imaginaient même pas. Voilà, parce que pour eux, souvent, le cinéma, le théâtre, c'est pas pour nous, etc. Mais si. Et c'est ce mélange aussi de populations. On a vraiment des gens de tous horizons, d'anciens médecins, d'anciens maçons. Voilà, il y a tout un mélange extrêmement riche, finalement. Et chacun apprend des uns des autres. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais en même temps, ça fonctionne. Voilà.
Alors Jean-François Castel, vous êtes photographe, journaliste et vous êtes également réalisateur, plutôt dans le domaine du documentaire. Comment ça s'est passé cette rencontre avec le Festival des 37 ?
Alors d'abord aujourd'hui je suis documentariste, ma carrière de photojournaliste c'est il y a quelques années en arrière. Alors le Festival des 37, je l'ai rencontré tout simplement parce que Loïc Méjean est venu me proposer d'être le parrain du festival. Et il m'a tellement bien vendu ce festival. Moi, j'ai plutôt pour habitude de faire des sujets sociaux. Donc, quand il m'a présenté le Festival des 37, je me suis dit, il y a une véritable histoire de documentaire, de film, une très belle histoire à raconter. Et je l'ai rappelé quelques jours après pour lui demander, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça serait envisageable de faire un documentaire ? Il m'a dit d'accord, bingo. Et du coup, ça, c'était au mois de juin 2022. Au mois de septembre 2022, ouais, c'est ça, je posais mes caméras pour une première séance, bon, d'abord sans les caméras pour aller se rencontrer, rencontrer les participants aux ateliers. Et puis fin septembre, commencer à filmer des séances un peu à l'aveugle, puisque je ne connaissais pas du tout les personnages. Ils sont quand même assez nombreux et ils se sont dessinés au fil des mois du tournage.
Alors, comment ça se passe d'amener une caméra sur la préparation d'un festival de cinéma, justement ? Les gens sont à l'aise, c'est plutôt fluide ?
En fait, ça a été très, très fluide. On ne peut plus fluide, puisque c'est des personnes, une population, qui a l'habitude de travailler autour du cinéma. Alors, ils ont l'habitude d'écrire des courts-métrages, ils ont l'habitude d'être acteurs sur des courts-métrages, et ils ont l'habitude aussi d'être très proches de la technique, voire de filer des coups de main, tenir une perche, faire une deuxième caméra. Donc, c'est vraiment un univers dans lequel ils étaient proches, alors dans un univers de fiction. Là, on est dans le cinéma du réel, c'est quand même autre chose. Mais il y a eu aucune appréhension.
Alors, le Festival des 37 va projeter votre film Capitaine Fantastique. De quoi est-ce qu'il parle ? Parce qu'il faut que nos auditeurs viennent le voir.
Alors, Capitaine Fantastique, c'est l'histoire d'un personnage hors norme, qui est Gilles Le Druyennec, qui est une personne donc invalide moteur cérébral. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le passage au moment de la naissance, un manque d'oxygène pendant quelques secondes qui fait qu'on a un handicap plus ou moins grand. Il se trouve que celui de Gilles est quand même assez important, puisqu'il marche comme un pantin désarticulé, avec un bras en l'air, des pieds qui tricotent et des fois un peu de mal à parler. Ceci dit, Gilles donc, est en même temps comédien et à son centre nautique de voile. Donc, en quoi il est extraordinaire ? Il est extraordinaire parce que chaque pan de sa vie l'est. C'est quelqu'un qui a toujours, alors je dirais, refusé et en même temps accepté le handicap. Il y a un paradoxe assez important. Mais en tout cas, on va dire que son défi, ça serait peut-être de faire toujours mieux que les valides.
Pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma.
Vous me disiez, le festival agit contre toutes les formes de discrimination.
Mais oui, parce que c'est encore très vivant, on le sait aujourd'hui. Il suffit d'allumer sa radio pour l'entendre, vous en savez quelque chose. La télévision, sans cesse, on est sur des formes de discrimination raciale, homophobique, antisémite, etc. Tous les jours. Donc, nous, on essaie de garder cet angle, ce point de vue pour justement rester à l'écoute et faire en sorte que chacun puisse se dire, ah, j'ai quand même si je suis à mon sens, comme ci ou comme ça, j'ai quand même une place quelque part. J'ai quand même une place dans cette société finalement qui m'a un peu isolé, qui m'a un peu discriminé. On est là aussi pour ça. Et on fait des films qui parlent de ça. Donc ça, c'est important. Et c'est le souhait des gens. C'est pas forcément notre souhait, nous. On est vraiment, nous, à l'écoute de ces problématiques qui sont finalement extrêmement présentes, vivantes, malheureusement. Et on a besoin de ce type d'événement pour toujours nous le rappeler. C'est pas gagné, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y en a plus. Moi, dernièrement, j'ai entendu des personnes dire ouais, la discrimination, arrêtons de nous bassiner avec ça. C'est faux. Voilà, il faut toujours être à l'affût et une sorte d'éveil permanent.
Et alors, Loïc, qui sont ces gens qui travaillent avec vous sur ce festival ?
On considère qu'on n'a pas du tout à travailler dans l'entre-soi. C'est-à-dire, on ne va pas forcément travailler qu'avec des gens en difficulté, non, on va ouvrir. Et c'est ça qui est la richesse, en fait. C'est-à-dire qu'on se prend citoyennement tous en charge. On est tous responsables les uns des autres, en fait. C'est un peu, c'est des thématiques très philosophiques, en réalité, derrière tout ça. Évidemment, il y a, sur le terrain, on fabrique, on est ensemble, on joue, on s'amuse, évidemment. Il y a un plaisir aussi, il y a un plaisir de se maquiller. Il y a des personnes qui viennent et qui me disent, mais ça faisait 10 ans que je ne m'étais pas maquillé. Il y a tout cet outil qui est le Festival des 37, c'est un outil finalement de reconstruction parfois de soi, d'estime de soi, de confiance. Toutes ces choses qui nous composent et que la vie parfois nous prive. Et c'est pour ça qu'on en arrive à des situations d'isolement et ces lieux d'accueil sont là pour ça. C'est de dire, voilà, il y a une parole possible pour vous, prenez le micro. Vous l'avez, je vous donne la parole. Et les gens ont des choses à dire, évidemment.
On est de retour dans l'Agité du local sur l'autre radio. On est lundi, c'est bien sûr le moment de la chronique de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Frédéric Benoît. Alors cette année, on reprend l'abécédaire à zéro. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'antisémitisme. L'antisémitisme parce que c'est d'actualité. Avec les événements qui se passent au Proche-Orient, il a été question beaucoup de ce terme. Alors, pourquoi abécédaire ? Je rappelle quand même, par rapport à l'année dernière, pourquoi abécédaire ? C'est pour évoquer, au travers de termes utilisés fréquemment, la lutte contre le racisme, qui est un des piliers de l'action de la Ligue des droits de l'homme. Donc, à chaque fois, dans cet abécédaire, je partirai d'un terme qui a fait écho dans l'actualité. Et puis, j'essaierai de décrire le phénomène de façon historique, mais sans remonter loin dans le temps, de nommer ce phénomène en termes de faits sociaux et de faits politiques, et puis enfin d'évoquer le droit, qui est la ligne de conduite, comme son nom l'indique, de la Ligue des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, A comme antisémitisme. Bon, comme vous le savez, le 9 novembre dernier, dans un communiqué, l'Association des maires de France a appelé les Français à se rassembler devant toutes les préfectures. Le dimanche suivant, le 12 novembre, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale avaient, eux aussi, appelé à une marche civique pour dénoncer la recrudescence des actes antisémites en France. Alors pourquoi ces appels ? Selon le ministère de l'Intérieur, plus d'un millier d'actes antisémites auraient été recensés en France depuis l'attaque du Hamas contre Israël. Alors ce terme d'antisémitisme, d'où vient-il ? Le terme lui-même est apparu seulement en 1879 en Allemagne. Alors il renvoie à quoi ? Il renvoie à une attitude d'hostilité haineuse à l'égard des Juifs, quel que soit le motif de cette hostilité. Bon, défini ainsi, l'antisémitisme est beaucoup plus ancien, on le sait, il y a une animosité historique entre la religion chrétienne et les Juifs. Bon, il ne s'agit pas ici de rentrer dans cette question-là, on est en dehors du débat actuel. Je vais m'intéresser à ce qui s'est passé au XIXe siècle, justement, là, date de la création de ce terme antisémite et des actes antisémites, proprement dit. Alors, au XIXe siècle, ça commence par une forme de critique sociale qui est relayée en France, curieusement, par la gauche. On voit dans le juif quelqu'un qui représente une puissance financière et par conséquent politique. On retrouve ça, par exemple, dans un roman d'Émile Zola qui s'appelle « L'argent », qui a comme toile de fond le domaine boursier avec la spéculation. Et le personnage principal se sent floué par un banquier. Et ce banquier est juif. Alors c'est l'époque aussi de la montée des nationalismes en Europe. Et le juif devient un élément en dehors de la nation. Alors à la fin du 19e siècle, ça va assez loin parce que le thème de l'antisémitisme est porté principalement par l'extrême droite qui voit dans le juif un traître. Le juif est un bolchevique et il est complice de l'Allemagne et ce sera la fameuse affaire Dreyfus. D'ailleurs, c'est cette affaire Dreyfus qui a donné naissance à la Ligue des droits de l'homme, 1898. J'avance un petit peu, on arrive au XXe siècle, le terme de race est utilisé sous la Troisième République et entrera dans le domaine juridique sous le régime de Vichy, à travers des lois portant sur le statut des Juifs. Alors la loi proclame la notion de race juive et promulgue plusieurs mesures anti-juives. Bon, certaines que l'on connaît très bien, l'étoile jaune, la mention de Juifs sur les cartes d'identité. Une qu'on ignore souvent, c'est celle du retrait de la nationalité française des Juifs d'Algérie. Bon, bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale, c'est le génocide. L'ampleur des crimes commis pendant cette guerre confère à l'antisémitisme vraiment une spécificité. Il faut préciser ici que le racisme des nazis s'appliquait principalement à des populations blanches. Il s'agit pour les nazis de la pureté de la race, la pureté du sang. D'où l'idéologie de la solution finale. Il s'agit d'éliminer tous ceux qui sont impurs. J'avance encore dans le temps. 1948, c'est la naissance d'État d'Israël qui va entraîner deux réactions avec des significations différentes mais complémentaires dans ce qui se passe aujourd'hui. D'une part, le refus de l'existence d'Israël en tant qu'État. Et puis d'autre part, la critique de la politique israélienne colonialiste envers les Palestiniens. Donc aujourd'hui, on retrouve comme un vieux démon toutes ces formes du 19e siècle, les préjugés, les allégations contre une puissance financière. Le juif, c'est le lobby financier, celui qui traite avec les États-Unis. Donc là aussi, cette idée de puissance politique qui a des ramifications auprès de certains hommes politiques, surtout américains. Donc ils mettent une politique internationale contre. Il y a aussi cette allégation et ce préjugé par rapport à la pureté de la race blanche. Donc le juif, c'est l'autre. Le juif, c'est... Bon, les termes sont moins utilisés, mais c'est le youpin, c'est les caricatures, c'est le nez déformé, gros, retombant sur les lèvres, c'est la laideur. Et puis le négationnisme, la forme la plus terrible de l'antisémitisme, c'est-à-dire nier les faits de génocide durant la Deuxième Guerre mondiale.
Et alors Frédéric, que dit le droit justement concernant l'antisémitisme aujourd'hui ?
C'est un acte qui relève du délit, c'est-à-dire de la possibilité d'emprisonnement. Alors, je vais pas faire d'échelle, mais en commençant par la chose la plus grave, c'est l'apologie de crimes contre l'humanité. On entend parfois, comme ça, dans des débats, le fait que, oui, il aurait fallu tous les éliminer. Bon, sachons que ça, c'est un délit. Et on peut... un délit pour lequel on encourt 5 ans de prison. Ça peut être aussi accompagné d'une amende de 45 000 euros. Il y a la contestation de crimes contre l'humanité. Donc c'est la célèbre intervention de Jean-Marie Le Pen qui parle des fours comme un détail de l'histoire. Non, ce n'est pas un détail de l'histoire. Donc ça aussi, c'est un délit. 5 ans d'emprisonnement possible et 45 000 euros d'amende. Il y a la provocation publique à la discrimination, à la haine, à la violence raciale. Quand vous dites gratuitement « sale juif », bon, c'est un délit. 1 an d'emprisonnement, 45 000 euros. Il y a la diffamation publique fondée sur l'origine ou la religion. Pareil, c'est un délit. 1 an d'emprisonnement, 45 000 euros. L'injure publique fondée sur l'origine ou la religion. De la même manière, c'est un délit. On encourt 1 an de prison, 45 000 euros d'amende. Ces choses peuvent être dites de manière privée, dans l'entre-soi. Ça relève de l'infraction. Je rappelle la Déclaration des droits de l'homme. Donc, aucune atteinte du fait de sa religion, de ses opinions, etc.
Merci Frédéric Benoît.
Je vous remercie.
Et on arrive au bout de cette émission, mais restez bien sur l'autre radio parce que la programmation de Joël nous promet de belles choses. Lucie, on commence la première soirée de cette semaine avec Solénoïd.
Oui Margot, on s'offre une balade sonore. Solénoïd nous propose chaque semaine un mix transversal à base de musique cinématographique, planante et ethnique.
L'émission est suivie à 20h de la discothèque. Merci de nous avoir écoutés. On revient demain à 12h15 et sans trop en dévoiler, on sera sur un tournage du Festival des 37. Soyez patients, à demain et d'ici là, faites-le bien.
Bon ben Mimi, on dirait que c'est fini.